Chapitre 52. Le dernier mot du marquis fut l'appel désespéré qu'il avait jeté au notaire. « Ma fille !» Il mourut 2 heures après, sans avoir repris connaissance et sans que rien fût venu montrer qu'il voyait ceux qui l'entouraient. Pendant ces 2 heures, Clémence, solidement établie sur sa chaise basse, ne l'avait pas quitté d'un instant, tenant dans ses mains la main de plus en plus froide du moribond, restant les yeux attachés sur lui. Denise et Madame Méraud, ainsi écartées, avaient été obligées de se placer derrière elle, tandis que Louis se tenait debout au pied du lit. Après le premier moment de trouble qui suivit la catastrophe, Louis s'approcha de Clémence, qui s'était agenouillée près du lit, et, lui touchant l'épaule du bout du doigt, afin de l'obliger à tourner la tête de son côté, il lui dit qu'il avait à lui parler et qu'il la priait de passer avec lui dans la bibliothèque. Elle se leva et, sans un mot d'observation, elle le suivit. « Tant que mon pauvre cousin a été vivant, dit-il, vous avez pu croire que votre place était près de lui. Mais maintenant, je compte que vous laisserez à sa famille le soin de lui rendre les derniers devoirs. Je ne vous demande pas de quitter le château. »«
Ah, vraiment ? »
J'espère cependant que vous comprendrez que vous devez vous retirer dans votre appartement. Après les funérailles, vous ferez valoir vos droits si vous en avez.
Pour cela, vous trouverez bon que je choisisse le moment qui me conviendra.
Parfaitement. Avant de se retirer dans son appartement, Clémence voulut voir M. de Carquebut, qui avait disparu en même temps que le notaire. Elle se mit à sa recherche, mais elle ne le trouva point. Il n'était ni chez lui, ni dans la salle à manger, ni dans le fumoir, cette pièce qu'il affectionnait particulièrement. Où était-il ? Elle continua ses recherches. En arrivant dans une pièce du rez-de-chaussée, qui était une sorte d'annexe du cabinet du marquis, un chartrier, dans lequel étaient rangées les pièces et les papiers, les titres des marquis de Rudemont, elle aperçut enfin M. de Carquebut. Il était agenouillé devant une armoire et à côté de lui, il avait une sébile pleine de sable. Que faisait-il là? Était-il en prière devant cette armoire? Comme il lui tournait le dos, elle ne pouvait pas éclaircir cette question. Tout à coup, il se baissa et prenant du sable avec une carte roulée en tuyau, il ajusta le bout de cette carte devant le trou de la serrure et, appliquant ses lèvres à l'autre bout, il souffla doucement le sable dans la serrure. « Que diable faites-vous ? » demanda Clémence étonnée. Il se releva vivement, comme quelqu'un surpris en faute. Mais il se remit bien vite. « Vous voyez, dit-il en venant à elle, je pose les scellés. »«
Comment cela ? » ?»«
Vous savez, je n'ai confiance en personne. Arthur est mort, le pauvre garçon. Il faut donc prendre ses précautions. En attendant que le juge de paix vienne avec son greffier, je prends les miennes. » Bien malin serait celui qui ouvrirait ces serrures que je remplis de sable. Je ne dis pas qu'on ne sera pas obligé de les enfoncer, mais j'aime mieux ça.
C'était précisément du juge de paix que je voulais vous parler, dit Clémence. Ne trouvez-vous pas qu'il serait à propos de l'aller chercher?
Ne comptez pas sur moi pour ça. Je ne démarre pas d'ici et j'ouvre l'œil. Vous savez, confiance en personne, c'est ma devise.
« Je ne vous parle pas de l'aller chercher, mais de l'envoyer prévenir pour qu'il vienne à poser les scellés. N'en avez-vous pas le droit en qualité d'héritier ?»«
Oh ça oui, et c'est ce que je vais faire. » »«
C'était tout ce que je voulais vous demander. »
Et tandis qu'il envoyait un domestique chercher le juge de paix, elle rentra dans sa chambre, dont elle ferma soigneusement la porte à clé et au verrou. Alors elle prit des ciseaux et, ayant retourné la poche de sa robe, elle coupa les fils qui attachaient le testament. Bien qu'elle le connût, elle voulait, avant de s'en séparer, le relire à tête posée. Ah, sans doute, il n'était pas ce qu'elle avait primitivement espéré, mais enfin, tel qu'il était, il valait quelque chose. L'usufruit de toute cette fortune. 1 500 000 francs en toute propriété, elle ne serait pas dans la misère. Elle ouvrit son code et relut l'article 970. Le testament holographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre règle.
Celui qu'elle tenait là devant elle réunissait toutes ses conditions. Cependant, serait-il maintenu par le tribunal? Pourquoi ne le serait-il pas? Elle examina longuement ces deux questions et pas à pas, elle remonta dans le passé. Combien de peines, combien d'efforts, combien de luttes pour arracher ce morceau de papier si fragile? Non contente de l'avoir lu, relu et étudié, elle voulut le copier, et ce fut seulement quand elle en eut fait une sorte de fac-similé qu'elle se décida à le porter elle-même à Maître Pennel, le notaire, n'osant confier à personne une commission de cette importance. Il y avait à peu près une heure qu'elle était partie quand le juge de paix, que M. de Carquebut avait fait appeler, arriva au château. Mais, au lieu de demander à voir M. de Carquebut, le juge de paix chargea le domestique qui le reçut d'aller prévenir M. Louis Méraud qu'il désirait lui parler. Louis ne se fit pas attendre. « Je suis chargé par Maître Pennel, dit le juge de paix, de vous remettre une lettre dont la lecture, je le suppose, ne vous sera pas pénible. Pour moi, je serai bien heureux d'avoir été le premier à vous féliciter. » Louis prit la lettre sans trop comprendre ce que signifiait ce compliment et l'ayant vivement ouverte, il la lut. « J'ai l'honneur et la joie de vous faire part que, par son testament en date du 15 mai 1865, Monsieur le marquis de Rudemont, votre cher et honoré cousin, dont nous déplorons la perte, vous a institué son légataire universel. Ce legs est fait. À charge par vous de payer à Mademoiselle Denise Lajolet la somme d'1 million et de servir à Monsieur de Carquebut, votre oncle, une rente viagère de 12 000 francs. En plus, Monsieur le marquis de Rudemont exprime le désir que, s'il existe entre vous et Mademoiselle Denise Lajolet un sentiment d'affection qu'il a cru constater, ce sentiment aboutisse à un mariage entre vous et ladite demoiselle. Louis s'arrêta, ses yeux venaient de s'emplir de larmes, il ne pouvait plus lire. Après un moment d'attendrissement, il acheva la lettre du notaire, qui ne roulait plus que sur des questions de formalité. Puis il fit appeler sa mère. La joie de Madame Méraud fut si vive qu'elle faillit suffoquer. Son fils, héritier du marquis, à Louis, l'héritage entier. Mais Louis calma bien vite cette exaltation. « Tu n'as donc pas regardé la date de ce testament, dit-il. Il y a plus de 2 ans qu'il a été fait. Ses dispositions ont été certainement changées, et la preuve, je la trouve dans les obstacles qu'on vient de nous opposer pour empêcher le notaire de Fromentel d'arriver jusqu'auprès de notre cousin. Attendons-nous à voir un autre testament qui détruira celui-ci. En tout cas, je te prie de ne rien dire de tout cela à Denise. » Elle n'a déjà eu que trop à souffrir de ces honteuses questions d'intérêt. Laissons-la son chagrin. Je ne veux pas qu'un mot d'affaire, je ne veux même pas qu'une allusion à notre mariage vienne la distraire dans les circonstances où nous nous trouvons et qui sont pour elle particulièrement cruelles. À quoi bon, d'ailleurs, occuper son esprit d'une chose qui n'existera plus demain ? Le lendemain, quand la vérité fut connue, elle causa une surprise générale. Louis s'attendait à un testament en faveur de Madame Beaujonnier et pour lui, l'annulation en était certaine. Mais la force que ce testament empruntait maintenant au concours de l'abbé Guillemite dérouta ses idées et ses plans. Quant à Madame Méraud, elle fut atterrée. Car malgré tout, malgré ce qu'elle savait, malgré ce qu'elle avait vu, malgré les avertissements et les prédictions de son fils, elle avait persisté dans sa foi que l'héritage d'Arthur devait quand même appartenir à Louis et qu'il ne pouvait appartenir qu'à lui. Mais celui des héritiers présomptifs du marquis, qui reçut de cette nouvelle le choc le plus rude, fut M. de Carquebut. Tout d'abord, lorsqu'on la lui apprit, il ne voulut pas la croire. Il s'imagina qu'on se moquait de lui et arrangea de la belle façon celui qui avait l'insolence de lui faire un pareil compte. Puis, tout à coup, au beau milieu de cette scène, tournant le dos à son interlocuteur, il courut à l'écurie, sella lui-même son cheval et s'en alla au galop jusqu'à Condé. Il ne croirait que Maître Pennel, il ne croirait que le testament lui-même quand il l'aurait vu. Il fallut bien se rendre à l'évidence, mais il reçut ce coup comme le condamné à mort apprend qu'on va l'exécuter. Il fut écrasé, anéanti, et il se laissa aller, défaillant, dans le fauteuil où il était assis. Le notaire, effrayé, crut à une attaque d'apoplexie et, ouvrant la porte qui, de son cabinet, communiquait avec son étude, appela ses clercs à son aide. Mais au moment où ceux-ci accouraient, effarés, M. de Carquebus se redressa et, écartant tout le monde sans dire un mot, remonta à cheval. « Ma foi, dit le notaire à son maître clerc, je crois que si M. de Carquebus ne se casse pas le cou en route, il va se passer de singulières choses à Rudemont. » M. de Carquebus ne se cassa pas le cou, bien qu'il fît en route tout ce qu'il fallait pour cela, et il arriva au château sain et sauf, au moins de corps, car pour l'intelligence, elle était affolée. Grimpant l'escalier 4 à 4, il alla s'enfermer dans sa chambre et, décrochant une paire de pistolets d'une panoplie, il se mit à les charger. Cela fait, il les fourra dans ses poches, l'un dans celle de droite, l'autre dans celle de gauche, et il descendit chez Clémence. Il est probable que si elle s'était trouvée là pour le recevoir, il se serait passé de singulières choses, selon le mot du notaire. Mais Clémence, qui connaissait à fond son Carquebus et qui savait de quoi il était capable dans l'emportement de la fureur, avait jugé prudent de ne point rester exposée à l'explosion qui se produirait infailliblement lorsque le testament serait connu. Aussi, après avoir remis ce testament dans les mains du notaire et avoir recommandé à celui-ci d'écrire pour tout ce qui aurait rapport aux affaires de la succession à M. Caffier son conseil, s'était-elle fait conduire à la station où elle avait pris son billet pour Paris. Fatiguée de lutter, elle avait besoin de repos. Dans son carnet, elle avait les 20 billets de 1 000 francs que le marquis lui avait donnés pour être employée en bonnes œuvres. De plus, dans un petit sac en maroquin qu'elle tenait soigneusement à la main, elle portait ses diamants qui pouvaient valoir entre 250 et 300 000 francs. Avec cela, elle pouvait attendre tranquillement que le procès qu'on allait sûrement lui intenter fût terminé. Se mettre en peine d'inventions nouvelles, de ruses, de mensonges, pour apaiser M. de Carquebus, non, vraiment, cela n'en valait pas la peine. Plus tard, si dans le cours du procès, elle avait besoin de le mettre de son côté, afin de n'avoir pour adversaire que Louis tout seul, elle verrait à trouver un moyen pour le ramener à elle. Elle savait comment le prendre et, d'ailleurs, elle avait aux mains une reconnaissance de 74 000 francs qui serait une arme puissante en la maniant adroitement. Le premier accès de sa fureur serait passé et il deviendrait alors plus facile de lui faire entendre raison. En tout cas, elle aurait gagné en s'en débarrasser ainsi de ne pas avoir à supporter sa présence pendant ses jours d'attente où il ne lui était bon à rien. Après 2 années comme celles qu'elle venait de passer, après ces derniers mois, après ces derniers jours, il était temps vraiment qu'elle respirât librement. Plus de tension d'esprit, plus de mensonges dans la mémoire, plus de masques sur le visage. Libre et riche.